Bonjour à tous, content de vous retrouver. Alors, imaginez quel est le sujet qui peut mettre le plus mal à l'aise un prédicateur quand il doit venir s'adresser à une assemblée comme ça. Le sujet le plus délicat et le plus compliqué et je vous mets au défi d'en trouver un plus sensible que celui de l'enfer. J'ai raison ou pas? Vous êtes d'accord avec moi? C'est un sujet qui est très délicat, très difficile. C'est la doctrine, l'enseignement de la Bible, en général, qui est le moins populaire. Je discutais il n'y a pas de longtemps avec une sœur d'une autre église et qui me disait que dans son église, ça faisait plus de 7 ans qu'elle n'avait jamais entendu dans aucune réunion ce sujet-là évoqué. Parce que vraiment, et elle me disait que c'est vrai qu'avec le temps, on n'est plus bien au clair sur ce que c'est que l'enfer. C'est un sujet qui est difficile, non pas parce qu'il est très technique, comme d'autres doctrines, vous savez, par exemple, la question de la Trinité. Expliquer la Trinité, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'illustrations, ça appelle plein d'autres concepts et ça nous met souvent en difficulté dans la réflexion. L'enfer n'est pas un sujet, une doctrine qui est difficile donc par son contenu, mais qui est extrêmement difficile pour ce que ça implique pour nous. Et c'est un sujet aussi qui a mauvaise presse. Pour trois raisons. La première, c'est parce que c'est un sujet qui est extrêmement douloureux, qui concerne absolument tout le monde, comme la mort, par exemple. La deuxième chose, c'est que c'est un sujet qui est totalement rejeté par notre société, par les gens autour de nous. Il m'arrive de parler de Jésus, et alors l'enseignement par exemple de Jésus sur le bon samaritain, voilà, faire du bien aux autres, aimer son prochain, les gens accueille ça d'une manière générale, mais dès que l'on parle d'un jugement de l'enfer éternel, tout de suite, en général, le rideau se ferme et c'est quelque chose qui est intolérable, parce que ça semble profondément intolérant. Et troisième chose, il faut le reconnaître, c'est qu'il y a beaucoup de préjugés à cause d'une vision populaire. Si vous regardez le nombre de films qui parlent de l'enfer et qui véhicule une certaine vision de l'enfer, mais qui n'a absolument rien de biblique, hein, mais c'est une vision qui nous influence énormément, même nous en tant que chrétiens, si on ne veille pas là-dessus. Et puis il y a aussi des préjugés qui sont peut-être justifiés dans l'histoire de l'Église contre des prédicateurs, pasteurs ou curés, dans l'histoire de l'Église protestante ou l'histoire de l'Église catholique, qui ont déformé cette doctrine, notamment dans un but aussi de manipulation. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui évoque des émotions très fortes pour chacun d'entre nous, et donc il est très facile de manipuler les gens via cette doctrine-là. Et donc je suis conscient que c'est un terrain miné dans lequel on va cheminer ensemble ce matin, mais je crois à l'autorité de la parole, je crois qu'elle est aussi claire, qu'elle s'explique par elle-même, et je crois que tous nous voulons savoir ce que Dieu a à nous dire à ce sujet-là et que nous avons confiance qu'il est juste dans ce qu'il nous déclare et que sa parole est certaine. Alors mon but n'est pas de créer une angoisse chez certains ou de semer le trouble, mais simplement qu'on puisse se confronter aux Écritures et tirer des Écritures des implications vraiment concrètes et pratiques pour nous. Alors, au menu ce matin, tout d'abord, nous allons voir une description biblique de cette doctrine. Et puis, vous allez voir que forcément, on va arriver à soulever une question qui est vraiment épineuse et à laquelle il nous faut tous répondre. Et puis, donc, dans un troisième temps, nous tirerons des implications pratiques pour notre vie. Donc, si vous voulez fuir, c'est maintenant. Bien, personne n'est parti. On va attaquer, attachez votre ceinture et on est parti. On va commencer donc avec la description biblique. Et pour aborder donc cette doctrine-là, Vous le savez aussi bien que moi, la Bible n'est pas un livre de théologie qui est organisé chapitre par chapitre, où il y a voilà, l'enfer, le paradis, qui est Jésus, qui est Dieu, qui est l'homme, etc. Mais les enseignements sont entremêlés et semés au fur et à mesure en fait, que Dieu révèle, Dieu se révèle et révèle son projet pour l'humanité. Et donc c'est dans sa parole qu'on retrouve ce sujet de l'enfer qui est semé et qui revient. Et en fait, faire de la doctrine, essayer de tirer un enseignement doctrinal, c'est d'essayer de prendre l'ensemble de ce que nous dit la parole sur un sujet et d'en faire une synthèse. Alors bien évidemment, on n'a pas le temps, pas les moyens ce matin de prendre absolument tous les textes et de parler de tous les détails de cette doctrine. Mais c'est vraiment l'objectif pour nous d'en tirer les enseignements principaux et d'aller voir donc dans les textes principaux ce que Dieu nous révèle par rapport à cette réalité future. Mais tout d'abord, le mot « enfer », c'est juste une précision, il faut se rappeler, ça vient de « infernum », ça veut dire « lieu inférieur » en latin. Le mot tel quel n'est pas présent dans la Bible. Vous ne trouverez pas ce mot-là. C'est un mot latin, pas un mot grec. Mais la notion de l'enfer est bel et bien présente. Et le mot « enfer » est devenu pour nous, en fait, synonyme de tous les autres mots qui sont dans la Bible. Vous savez, souvent on parle de la géhenne, par exemple, et d'autres termes comme ça. Et l'enfer est simplement un synonyme et représente, en fait, l'ensemble de cet enseignement-là. D'accord ? Ok. Alors, on y va. Nous allons donc balayer quelques textes ensemble. Tout d'abord, je commence avec un texte du prophète Ésaïe. Je ferai simplement juste un ou deux commentaires ci et là. Ésaïe 66, versets 22 à 24. Le prophète, nous sommes dans les derniers versets, le dernier chapitre de son livre, et la dernière partie du livre du prophète Ésaïe est là pour nous présenter un portrait du Messie qui est à venir. Ésaïe écrit 800 ans avant Jésus, hein, il faut se le rappeler. Et Ésaïe est en train de dresser un portrait thématique sur le Messie qui va venir, le serviteur de l'Éternel. Et là, il le présente comme étant le conquérant, le juge, celui qui va en fait rétablir toute chose et tout remettre en ordre. Et il termine avec ces versets, « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer » subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Vous voyez cette image où il y a, en gros, tous ceux qui sont rassemblés, on suppose comme dans une ville, et puis quand on sort, séparé de ces gens-là, il y a d'autres personnes qui sont, en fait, l'image qui est évoquée là par le prophète Ésaïe. Vous savez, c'est comme après un champ de bataille, un champ où il y a tous les corps, tous les cadavres qui sont là et qui sont en train de se faire ronger par les vers et aussi en train de brûler. C'est une vision d'horreur, vraiment d'horreur. Et vous allez voir, tous les textes de la Bible sur ce sujet-là sont très imagés. Et je crois que l'un des objectifs de tous les auteurs de la parole, c'était de nous montrer, de nous dessiner une réalité future par des images, difficiles pour nous à imaginer concrètement, donc très illustrées. Mais l'objectif est de nous montrer à quel point c'est quelque chose qui est terrible. Et en fait, je crois que l'objectif, c'est de susciter la peur et l'effroi, littéralement. Et il y a là, tout de suite, dans ce texte du prophète Ésaïe, une notion d'état éternel. On voit qu'il y a un ver qui ronge sans fin et un feu qui continue de brûler. Et que l'humanité, déjà, dans cette vision-là, est séparée en deux. Il y a ceux qui sont avec l'Éternel, qui fêtent les sabbats, c'est-à-dire les fêtes, qui se réjouissent avec l'Éternel, et puis ceux qui sont au dehors et qui sont en train d'être rongés par le ver et de brûler. Daniel 12, verset 2. « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. » Là, le prophète Daniel parle d'une résurrection universelle. Tous les hommes ressusciteront corporellement, il l'annonce déjà. Il est toujours dans ce contexte, lui, d'annonce de jugement, le prophète Daniel. Et il dit donc que tout le monde ressuscite, mais que pour certains, ça sera pour une honte éternelle. Donc là, c'est plus une réalité émotionnelle, psychologique, qui est décrite. Et les prophètes, alors on ne va pas faire d'autres textes des prophètes, mais beaucoup de prophètes font allusion au jugement dernier et à cette question de l'enfer. Vous savez, ce fameux jour de l'Éternel. Stéphane parlait des petits prophètes. Celui des petits prophètes qui en parle le plus, c'est Joël. Le jour de l'Éternel est un jour terrible et redoutable que tout le monde doit craindre, où Dieu va exercer pleinement son jugement sur toute sa création. Et même les auteurs du Nouveau Testament reprennent ces images de ces jugements, en fait même les images des jugements historiques, des grands châtiments qu'il y a pu avoir. Vous savez ce qui s'est passé au temps de Noé, où Dieu a jugé toute la création et l'a recouverte d'eau pendant 40 jours. Ce qu'il s'est passé pour les villes de Sodome et Gomorre. Et l'apôtre Pierre dit, comme les prophètes, que ces jugements-là sont pour nous avertir et préfigurent un jugement ultime qui sera universel et qui sera bien plus terrible que déjà ces jugements qui ont eu lieu. Et puis celui qui en a le plus parlé parmi tous dans la Bible, vous savez qui c'est ? C'est Jésus, oui, plusieurs le disent. Jésus est celui de loin, de très loin, qui a le plus enseigné sur la réalité de l'enfer. Dans tous les évangiles, plusieurs discours en parlent, et des fois de façon très longue. Jésus prend le temps d'en parler, il voulait à tout prix prévenir ses contemporains de cette réalité-là. Et regardez, quand il envoie pour la première fois ses disciples pour annoncer la bonne nouvelle, il les prévient qu'ils vont se retrouver face à une opposition, face à une persécution, et il leur dit que même dans les temps à venir, ils seront face à cette opposition-là et que des gens pourront peut-être les tuer au nom de leur message, au nom de Jésus lui-même, de leur maître. Et il les rassure en disant « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Donc il y a une réalité de difficulté que l'homme peut vivre, peut être amené à la mort par d'autres, mais il veut les rassurer. Ces personnes-là ne peuvent pas toucher à votre âme. Ils ne peuvent pas toucher à ça. Par contre, Dieu, lui, peut condamner l'âme, la faire mourir. Et il y a une notion qui est importante de rappeler pour nous, c'est que dans la Bible, la mort, on l'a vu par les textes qui sont là avant, ceux qui dorment se réveilleront, dit le prophète Daniel, la mort n'est pas la fin de l'existence. C'est un état différent de l'existence. C'est plus l'homme qui vit âme dans le corps, dans ce monde-là, le corps est mort, mais l'âme n'est pas mort. Et il y a, on appelle ça un temps intermédiaire, où en fait, après ça, on va le voir, on va revenir dessus, en fait, le sort de l'homme est déjà déterminé. Il est trop tard après la mort. Et il y a l'attente pour tout homme, comme dans le sommeil, dit de façon imagée le prophète Daniel, de l'attente de ce jugement qui va venir. En Matthieu, versets 22, 1 à 14, dans la parabole des noces du fils du roi, Jésus enseigne par parabole et dit qu'il y avait comme un roi qui voulait marier son fils et qui invite plein de monde. Et les gens refusent d'aller à ce mariage-là, ou d'autres même viennent, mais habillés de façon indigne, de façon qui n'honore pas. Ils veulent participer, mais comme ça leur plaît à eux. Et la conclusion de cette parabole, Jésus dit « Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et par cette parabole, Jésus voulait montrer à quel point il est grave de refuser l'invitation du roi, l'invitation de Dieu à vouloir sauver. Et cette invitation, Jésus est venu l'apporter lui-même, par sa personne, dire « Dieu veut vous sauver ». Et imaginez à quel point c'est grave. Ce qui vous attend, c'est les ténèbres, les pleurs et les grincements de dents. Deux, trois chapitres plus loin, en Matthieu 25, Jésus dit dans son discours, il parle de son discours de la fin des temps, qui concerne la fin des temps. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Dans ce texte-là, Jésus rajoute une information qui est capitale et qui vient casser une image populaire que l'on a. Satan sera bel et bien en enfer, mais ce n'est pas Satan avec la fourche, vous savez, qui pique dans un chaudron ceux qui y sont et qui les tourmentent. Satan ne règne pas en enfer. Satan va en enfer parce que c'est un lieu qui lui est réservé aussi de punition et de châtiment éternel pour lui et tous ses anges. Satan ne règne pas sur l'enfer. Jésus règne sur absolument tout, et c'est lui qui jugera absolument tout. Et Satan aussi sera jugé. Et il repense cette image de feu éternel qui a un écho à cette image de la gêne qu'on a vue il y a deux textes. Et juste un petit rappel pour vous dire ce que Jésus évoque quand il parle de la gêne. Il parle d'une vallée qu'il y avait au sud de Jérusalem, et à une époque bien sombre de l'histoire du peuple, le roi Akaz, un des rois qu'il y a eu en Juda, avait fait quelque chose d'horrible. C'est qu'il avait décidé d'offrir des enfants, des nouveau-nés, en sacrifice au dieu Moloch. Idolâtrie et horreur. Et il faisait ses sacrifices dans cette vallée-là. Plus tard, un roi qui a eu un petit peu une œuvre de réformateur, le roi Josias, lui a déclaré que cette vallée devait être considérée comme impure et a été transformée comme une décharge publique. Et on dit qu'il y avait un feu qui brûlait constamment des ordures qui étaient là. Donc vous voyez encore un appel à une image qui est horrible, qui est terrible. L'apôtre Paul aussi a beaucoup parlé, lui, avec un angle différent, qui est l'angle légal, où il parle de la condamnation qui pèse sur absolument tout homme, que tout homme est pécheur et tout homme sera amené en jugement devant Dieu. Et tout homme devra justifier de sa vie devant Dieu. Et ce que dit Paul, il développe dans toute sa théologie, notamment dans l'Épître aux Romains en particulier, que tout homme est déclaré coupable et ne peut passer le test devant Dieu. Et que, littéralement, nous méritons tous l'enfer, parce que nous sommes tous pécheurs. Et en 1 Thessaloniciens 1,9, Paul dit ceci, « Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. » Paul ajoute un élément concret, c'est que le jugement est basé sur le fait de connaître, d'accepter, d'obéir, et un frère l'a dit tout à l'heure dans sa prière, reconnaître la seigneurie de Christ et bien sûr l'œuvre qu'il a fait sur la croix. Certains disent qu'il n'y a que Dieu qui peut les juger. Quand j'étais plus jeune, j'écoutais énormément de rap, et je peux vous assurer que dans un morceau de rap sur deux, le rappeur dit ça. De toute façon, il y a Dieu qui peut me juger. Effectivement, Dieu va tous nous juger. Et c'est quelque chose qui devrait nous terrifier. En Hébreux 9, 27, l'auteur dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement ?» Ce qu'il rajoute, c'est qu'après notre état de mort, après la mort, après la vie sur terre, plus aucune possibilité. La seule chose qui nous attend, c'est le jugement. Plus de possibilité de se racheter. Après la vie sur terre, après le refus conscient de Jésus-Christ, il n'y a plus de solution qui est donnée par Dieu. Et la seule chose qui attend tout homme, c'est le jugement. Dante, peut-être que vous connaissez cet auteur et que vous avez lu ses œuvres, a écrit une œuvre qui s'appelle « La Divine Comédie ». Le premier tome s'appelle « L'Enfer ». Et Dante intitule, avec toute rigueur, comme si son propos sur l'enfer, « Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. » Et pour ça, il dit vrai. Mais les textes qui nous parlent le plus clairement, encore, et avec une image encore, on dirait amplifiée, sont les textes de l'Apocalypse, et j'en retiens seulement deux que je vous lis rapidement. Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, c'est-à-dire ceux qui adorent Satan et qui sont identifiés à leur maître, Satan, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. » Vous savez, à l'époque, le vin, il n'avait pas la culture française et le vin, le Bordeaux que nous on a, et ces bons vins-là, et souvent le vin était très fort. Et il se buvait toujours dilué, au moins de moitié. Parce que c'était vraiment un alcool fort, quoi. On peut au moins doubler le nombre de pourcentage d'alcool. Et donc, il était toujours dilué. Et là, l'image qu'il dit, c'est que la colère de Dieu a toujours été manifestée, mais d'une manière diluée. Et au temps du jugement, Dieu manifestera sa colère sans aucune dilution, pleinement. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Et plus loin, il dit, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et dans le soufre, où sont la bête et le faux prophète. » Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Voilà, ce texte, pour conclure cette petite énoncé, où Jésus parle encore et rappelle un jugement donc universel qui a une portée éternelle et qui concerne tous ceux qui se sont rebellés contre lui, contre Dieu, et qui concerne aussi Satan et tous ses anges. Alors si on fait la synthèse de tout ça, il y a, je vous le dis, encore deux, trois autres éléments qui rentrent dans la question du jugement, mais qu'on n'a pas le temps d'aborder et dans le sujet, en fait, une autre fois, si vous voulez, on pourra les aborder, mais qui n'apporte rien de plus par rapport à la doctrine d'une manière générale. Mais ce que nous pouvons savoir, ce que la Bible affirme d'une manière claire et nette, c'est que après la mort, notre condition est éternelle. Que tous les hommes, absolument tous, passeront devant Christ et seront jugés. Et le critère sera leur vie et sera une vie qui a été ou non soumise à Christ, une vie qui s'est confiée à Christ ou non. Et nous serons jugés sur la base de notre obéissance à Jésus-Christ, sur la foi, hein, la foi est aussi de l'obéissance à Jésus-Christ, à ce qu'il a fait sur la croix. Ceux qui auront cru à l'œuvre de Jésus-Christ seront acceptés pleinement et vivront l'éternité auprès de Dieu. Ceux qui auront rejeté l'œuvre de Christ, Christ les rejettera. Et ils vivront une séparation éternelle d'avec Dieu dans un lieu où ils vivront une souffrance consciente qui nous est décrite dans la Bible, à la fois une souffrance spirituelle, mais aussi physique et morale. Parce que tout le monde sera ressuscité dans un corps. Un lieu. Et il est difficile de dire au-delà de ça. Mais ce que nous devons retenir, c'est que c'est une réalité qui est terrible. Et une réalité qui n'existe pas encore. Donc nous avons du mal à aller au-delà et nous devons faire confiance au texte. Et du coup, cela forcément nous amène maintenant à nous poser une question, la question qui nous vient à tous, la question épineuse, c'est comment croire à un Dieu d'amour avec une telle doctrine? Autrement dit, comment concilier un Dieu qui aime avec un Dieu qui exerce un jugement si terrible et éternel à des personnes qui, à la limite, ont commis des péchés, mais qui, eux, étaient temporels, des petits péchés par rapport, enfin, on trouve, enfin, je ne sais pas vous, mais naturellement, moi, sans la Bible, je trouve que c'est extrêmement sévère, que c'est même cruel. Plusieurs éléments de réponse. Premièrement, chacun d'entre nous, nous savons que personne ne croit que l'amour ne s'oppose à la colère. Si vous ne croyez pas ça, peut-être que vous n'êtes pas marié ou que vous n'avez pas d'enfant. On peut aimer quelqu'un et pourtant être en colère contre cette personne. Et je pense que si nous sommes, nous, moralement, loin d'être parfaits, avec une conscience entachée par le péché, et que nous pouvons connaître, expérimenter une profonde colère vis-à-vis du mal, ou vis-à-vis de l'injustice, ou vis-à-vis d'une offense qu'on nous fait à nous, qui nous provoque une ardente colère, combien un être qui est parfaitement saint peut se sentir offensé par notre péché? Deuxièmement, je crois qu'il, avant d'aller par la suite, il est important de rappeler que la colère de Dieu n'est pas une réaction comme nous, on peut manifester par la colère. Une réaction qui est disproportionnée, qui est injuste, qui est motivée par un désir de vengeance et qui ne recherche pas la justice. Dieu, la Bible nous l'affirme clairement, par exemple en Ézéchiel 33, que Dieu ne prend aucun plaisir dans la mort du méchant. Que Dieu veut, et ça a été dit dans la présidence et dans des prières, que le projet de Dieu est un projet de rachat, de rédemption, où ce que Dieu veut, c'est que l'homme se détourne de sa condition et vienne chercher le pardon. Et ce qui le manifeste encore plus, c'est Jésus lui-même qui pleurait sur Jérusalem, qui ne voulait pas se repentir. Et deuxièmement, notre compréhension de la justice est limitée. Pourquoi ? Parce que nos capacités sont limitées. Nous ne sommes pas omniscients, nous ne savons pas tout. Hein ? Nous ne sommes pas Dieu. C'est très difficile de juger certaines choses quand nous ne connaissons pas tout. Et qu'en plus, je l'ai déjà dit, nous sommes partiellement aveuglé et corrompu avec une vision déformée de ce qu'est la justice. Et donc, nous devons faire confiance à ce que Dieu met derrière la justice, à la façon dont il traite l'injustice, à la façon dont il traite aussi le péché. Mais il y a une troisième chose derrière cette question, il y a l'idée que Dieu est injuste car une faute temporaire que nous avons pu commettre est répondu par une peine éternelle. Et pour répondre à cette question, il nous faut bien mesurer quelle est l'ampleur du péché. Et ça, avec deux questions, vous allez voir, je vais illustrer. Qui doit déterminer la rétribution d'une offense? Je prends un exemple extrême pour illustrer. Imaginez que quelqu'un vient et tue un de vos enfants ou votre époux ou épouse ou votre meilleur ami. Et que cette personne, après, vous dit, écoute, je regrette, voilà, je te fais un chèque de 200 euros et puis maintenant, tu dois me pardonner, quoi. Est-ce que vous acceptez ou pas? Celui à qui revient la décision est celui qui a été offensé. Aussi bien, vous pouvez décider de pardonner pour rien, dire « je ne veux pas ton argent, j'ai décidé de te pardonner, c'est à moi de fixer les termes, la balle est dans mon camp, parce que tu as fait une offense contre moi. » Ou « j'estime que tu dois mourir parce que tu as apporté la mort. » Deuxième chose qui est importante à prendre en compte, il me semble, c'est à qui est faite l'offense. Et là encore un exemple, imaginez que vous tuer votre voisin de palier parce qu'il met la musique trop forte. Ou que vous tuiez le président de la République. Dans les deux cas, vous allez être condamné. Mais une condamnation va être bien plus importante. Si vous tuez le président de la République, vous portez atteinte à la dignité d'un représentant ultime de l'autorité dans votre pays. Et vous portez atteinte à la dignité qu'il représente et qui est liée à sa fonction. Vous comprenez? Et on voit bien que c'est deux choses différentes. Tuer le président est quelque chose de très grave. L'offense envers Dieu est infinie parce qu'elle est faite à quelqu'un dont la dignité, l'autorité, la pureté morale, la sainteté sont infinies. Et il y a donc une juste rétribution à une offense qui est infinie avec une condamnation qui est éternelle. Et c'est ce que le roi David lui-même a expérimenté quand il a compris l'ampleur de son péché. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire et qui est aussi relatée, où on voit sa repentance dans le psaume 51, où David a tué un de ses généraux pour prendre sa femme. Et il a compris l'ampleur, la gravité de son péché. Et il formule cette prière, il dit « J'ai péché contre toi seul ». Non pas qu'il estime qu'il n'a pas péché contre cet homme et contre cette femme, mais qu'il comprend que sa dette vis-à-vis de Dieu est infinie. Et je reconnais personnellement que j'ai souvent beaucoup de mal à reconnaître à quel point le péché est grave, profondément laid, détestable aux yeux de Dieu. Et cette doctrine nous aide à nous rappeler que le péché est quelque chose d'extrêmement sérieux vis-à-vis de Dieu et que le moindre mal commis envers Dieu est une rébellion envers son autorité absolue envers nous. Il est donc juste pour Dieu qu'une offense qui a une ampleur infinie mérite une condamnation éternelle. Et c'est précisément ce qui rend la croix si glorieuse. Car c'est celui envers qui nous avons une dette infinie qui vient la payer à notre place sur la croix. Christ a été abandonné sur la croix pour subir le châtiment qui nous est réservé. Donc Dieu n'est pas simplement un juge extérieur à sa création, un juge cosmique, impartial, distant, sans compassion, qui condamne les hommes, mais il est aussi celui qui est venu lui-même pour subir à notre place notre condamnation. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun vivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Et il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Qui a mis son sépulcre? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'ait point de fraude dans sa bouche. Et il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ésaïe chapitre 53. L'enfer est la mesure qui nous permet de comprendre et d'apprécier à sa juste valeur l'œuvre qu'a fait Jésus sur la croix pour nous sauver. D'une certaine manière, comme le dit un ami à moi, Pascal Deneau, qui est pasteur au Québec, il dit d'une certaine manière, Jésus a subi notre enfer. Sans le jugement dernier, nous ne connaîtrions pas Christ comme nous le connaissons, comme ce sauveur merveilleux qui n'a pas hésité et qui a choisi délibérément de venir nous sauver et de subir à notre place le châtiment et d'offrir un sacrifice qui a une portée éternelle et infinie et qui peut couvrir complètement notre péché. Et donc, aux yeux de Dieu, le pécheur trouve justice à deux endroits, au pied de la croix ou en enfer. Et ce qui détermine entre les deux, ça va être notre foi et notre confiance en Jésus-Christ. Alors maintenant, pour conclure, six applications rapides pour nous, six implications vraiment concrètes pour nous dans notre vie. Premièrement, cette doctrine nous aide à nous rappeler la gravité du péché, ce que ça a coûté à Dieu pour nous délivrer, nous pardonner notre péché, et donc un puissant encouragement à mener une vie sainte et à ne pas vivre une grâce à bon marché, à abuser de la grâce, comme le dit l'apôtre Paul. Deuxième implication, je crois que ça nous rappelle la grandeur de l'amour et de la justice de Dieu manifestée à la croix, et que c'est très difficile à saisir. Et si on rejette la doctrine de l'enfer, on rejette nécessairement celle de la croix, telle qu'elle nous est présentée. Et on ne peut accepter celle de la croix sans celle de l'enfer. Troisième chose, et je dois ce point à Wayne Grudem, pour notre besoin de justice dans un monde qui ne l'est profondément pas. Et Grudem dit, « Le fait qu'il y aura un jugement dernier nous assure qu'au bout du compte, l'univers que Dieu a créé est juste, car Dieu est maître de tout, il tient des comptes précis et rend un juste jugement. Finalement, tout rentrera dans l'ordre. » Et si on nous pose la question, « Mais si Dieu est amour, si Dieu est bon, pourquoi le mal? Que Dieu fait-il contre le mal ?» Nous avons une double réponse. C'est la croix et c'est l'enfer. Et beaucoup de personnes demandent ce que Dieu fait contre l'injustice dans le monde. Mais quand on leur dit qu'ils sont eux-mêmes concernés par ce problème-là à cause de leur propre injustice, c'est là en général qu'il y a une dissociation qui se fait. Mais nous sommes absolument tous concernés par cela. Quatrièmement, la doctrine de l'enfer nous aide à pouvoir pardonner pleinement, totalement et librement toute offense. Parce que nous savons que dans la perspective de la fin des temps, chaque péché, chaque mal qui a été commis sera payé, soit par Christ, soit par la personne qui n'a pas voulu être pardonnée en enfer. La justice est pleinement rétablie. Et Jésus dit même que celui qui ne pardonne pas n'a pas compris à quel point Dieu lui pardonne. Et que quelqu'un, un chrétien, qui vit une vie en tenant compte de tout ce qu'on lui fait et qui n'est pas prêt à effacer la dette des autres, ne mesure pas à quel point sa propre dette, son ardoise est pleine et à quel point Dieu lui offre un salut qui est merveilleux. Enfin, avant-dernier point, la doctrine de l'enfer nous encourage à témoigner de Jésus-Christ avec compassion. Et cette doctrine m'a fait penser à ce verset de l'apôtre Paul quand il parle en Romains 9 de son peuple et il dit « J'éprouve une profonde tristesse et un chagrin continuel dans mon cœur » quand il pense à ses compatriotes qui rejettent Christ. Nous devons encourager les gens autour de nous à se réconcilier avec Dieu. Jésus était un prédicateur de l'urgence. Paul se considérait aussi comme un prédicateur de l'urgence où il appelait tout homme à vite se repentir, à se réconcilier avec Dieu. Et je crois que la parole nous invite à les imiter. Jésus, comme je l'ai dit, pleurait sur le sort de Jérusalem qui ne voulait pas se repentir. Pleurait sur les villes de Chorazin et Bethsaïda parce qu'il disait « Avec votre connaissance, vous ne voulez pas vous repentir, votre châtiment sera pire que celui qui a concerné Sodome et Gomorre. » Jésus est celui qui a le plus parlé de l'enfer. Nous ne pouvons pas, dans notre vie chrétienne, du coup, ignorer ce sujet-là, dans notre enseignement, dans la façon dont nous présentons Christ aux autres. Nous devons trouver le courage de l'imiter en le faisant comme lui, en cherchant à l'imiter avec la même compassion, avec le même esprit de service et avec un amour sans faille vis-à-vis des autres et surtout sans triomphalisme. Enfin, cette doctrine doit nourrir notre adoration. Parce que nous nous rappelons que nous étions condamnés à vivre cet enfer. Et que c'est par pure grâce que Dieu a décidé que son Fils paierait le châtiment à notre place et qu'il nous accorde cette vie éternelle et qu'il manifeste pour nous son amour infini et que nous avons cette paix, cette réconciliation. Et donc nous sommes appelés, comme le dit l'apôtre Paul, à célébrer la gloire de sa grâce. Je conclus par la prière. Seigneur, nous te remercions du fond du cœur parce que tu n'as pas voulu nous épargner cette réalité future. Tu as voulu porter à notre connaissance à quel point tout homme est en danger, un danger de mort et en danger de connaître l'enfer. Et Seigneur, nous reconnaissons que c'est un jugement qui est juste et que chacun d'entre nous mérite. Et nous te sommes du coup infiniment reconnaissants pour cette initiative motivée par le désir de montrer ta gloire, de montrer ton amour et ta justice envers nous, que de prendre l'initiative d'envoyer ton Fils et de voir Jésus qui dit que c'est lui qui a choisi de venir pour s'offrir en sacrifice. Merci Seigneur, parce que nous voyons que ce n'est pas un bricolage, que tu l'as annoncé dans ta parole par les prophètes, qu'il n'y a pas de solution qui vienne de l'homme et que l'homme doit s'attendre à ce que tu apportes la solution. Et tu as été fidèle et tu l'as fait pour nous. Et Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants et redevables pour ça. Et ce que nous voulons, c'est te consacrer une vie derrière qui manifeste concrètement notre reconnaissance. Seigneur, que chaque homme autour de nous, ici dans cette pièce, puisse être positionné devant toi, ne pas être dans le flou et savoir sur quel chemin il est, celui de la croix ou celui de l'enfer, et écouter cet appel d'amour qui vient du fond de ton cœur, où tu nous appelles à nous détourner de cela et à venir nous confier en toi pour recevoir ton salut. Au nom du Seigneur Jésus.